Bon, Jean-Bernard Leroy, je continue maintenant l'examen sur l'Apocalypse. Et nous en arrivons au message à l'église de Thyatire. Thyatire, que selon certains, c'est l'église du Moyen-Âge, la plus grande période, les 1000 ans qui ont séparé Saint Grégoire Ier, que nous venons de fêter la fête, jusqu'à la crise luthérienne. Note encore ceci pour l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux flamboyants et les pieds pareils à du bronze fin. Je connais ta conduite, ton amour, ta foi, ta serviabilité, ton endurance et tes œuvres récentes plus nombreuses que celles du début. Je te reprocherai pourtant de laisser faire Dame Jézabel. Elle se prétend prophétesse, elle séduit mes serviteurs et leur apprend à se débaucher et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai laissé le temps de se repentir, mais elle ne veut pas renoncer à son dévergondage. Cette fois, je vais la mettre au lit, ainsi que tous ses complices d'adultère, pour y souffrir beaucoup, à moins qu'ils ne se détournent de leur façon d'agir. Ses enfants, je les ferai périr de la peste, et toutes les églises sauront que c'est moi qui scrute reins et cœurs, car je donnerai à chacun de vous selon ses œuvres. Quant à vous, bonnes gens de Thyatire, qui n'acceptaient pas cette doctrine et n'avaient pas fait connaissance avec les profondeurs de Satan, comme ils disent, je déclare ne pas vous imposer d'autres charges. Seulement tenez ferme votre bien jusqu'à mon arrivée. Alors, au vainqueur, qui pratiquera mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai l'empire sur les nations païennes. Il les mènera à la baguette de fer comme au fracas de la poterie, comme moi aussi j'en ai reçu le pouvoir de mon père, et je lui donnerai l'étoile du matin. À bon entendeur d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Thyatire est une petite ville, à mi-chemin entre Pergame et Sardes, et sur un petit fleuve qui se jette dans la mer à Smyrne. Elle n'a rien de spécial a priori. C'est pourtant à son intention que fut rédigé le message le plus long. Le messager a les yeux flamboyants et les pieds pareils à du bronze, fin, deux des attributs du Fils d'homme au chapitre 1, et c'est donc le même qui s'adresse à Thyatire. Les yeux flamboyants sont ceux du regard divin auquel rien ne peut échapper, et les pieds d'airain sont ceux d'un apostolat sans fatigue. Le compliment est réel. Je connais ta conduite, ton amour, ta foi, ta serviabilité, ton endurance et tes œuvres récentes plus nombreuses que celles du début. Ce n'est pas rien. Cependant, je te reprocherai de laisser faire Dame Jézabel. Elle séduit mes serviteurs et leur apprend à se débaucher. Si elle ne veut pas renoncer à son dévergondage, elle mettrait au lit avec ses complices d'adultère pour y souffrir beaucoup. Ceux qui ne sont pas avec la dite dame de Jézabel sont ceux qui n'acceptent pas sa doctrine et ceux qui n'ont pas fait connaissance avec les profondeurs de Satan. Cette dame Jézabel, c'est le danger de doctrine ou de pratique laxiste. La vérité est en général au milieu de deux erreurs, disait Aristote. Mais il faut toujours ajouter pas forcément à égale distance. Le danger est d'autant plus grand qu'il faut se garder et du pharisaïsme et du laxisme en restant indulgent pour autrui et strict sur le plan des principes. À tout péché, miséricorde ne signifie pas que l'on doive se laisser aller soi-même, ni qu'on doive approuver les égarements d'autrui. Un exemple cruellement actuel peut être pris dans les mœurs. La continence reste de rigueur avant le mariage. Et l'homosexualité est un désordre grave, affirme le catéchisme de l'Église catholique, qui précise que celui qui a des tendances homosexuelles n'en est pas responsable, mais qu'il n'y a pas faute de sa part à avoir ces tendances, mais qu'en revanche, il doit respecter une continence absolue. Les braves citoyens de Thyatire savent cela et le respectent. Mais Dame Jézabel prêche le contraire avec toute la puissance de la presse, de la radio et de la télévision. Il faut résister. Et aussi le faire savoir dans la mesure du possible. Notons en passant que le Fils de Dieu aux yeux flamboyants a promis à Dame Jézabel de la mettre au lit pour y souffrir beaucoup. S'agirait-il de maladies liées à ses pratiques? Il est bien difficile d'empêcher d'agir Dame Jézabel, car elle détient tous les moyens de communication et pratiquement toute la puissance politique. Actuellement, lire le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, en particulier les versets 24 à 32, risque de vous conduire en prison avec une forte amende. Mais ce qui est pratiquement impossible en public, Il faudrait que toutes les autorités ecclésiales s'en mêlent, mais elles restent malheureusement trop souvent muettes, même lorsque le pape a parlé. Donc, ce qui est impossible en public est un devoir brûlant à l'intérieur des familles. Il ne s'agit pas d'être rigoriste, au contraire, mais de bien montrer qu'une famille, voire un groupe de familles, peut rester unie dans la joie, la gaieté et la fête, tout en respectant les commandements de Dieu. N'oublions pas que le vin des noces de Cana était le meilleur. Faire la fête n'est pas un péché. Mais il faut toujours rester inspiré par le conseil. Attitude pleine d'humilité, car elle est souvent mal comprise. Rendre témoignage. Chose bien nécessaire et pas toujours facile, car il faut le faire avec assurance mais sans colère. On dirait sans agressivité. Il faut le faire à temps et à contre-temps, a dit saint Paul, mais sans pour autant être importun. Avoir du courage sans être odieux, c'est parfois un problème. Il semble bien que ce message s'adresse aussi aux nombreux chrétiens sincères, pratiquants, mais qui ont souvent une tendance à s'installer dans le confort d'une pratique dont ils accommodent certaines exigences à leur gré. Ils se permettent quelques écarts sous le prétexte, parfois justifié au début, que ce n'est qu'une faute vénielle. Il faut être très vigilant à ce sujet. On peut résumer ainsi les 5 étapes du péché de faiblesse. Premièrement, pardon pour les actes où la faiblesse m'entraîne. Deuxièmement, que voulez-vous, je suis fait comme cela. Troisièmement, ce n'est pas ma faute si je suis ainsi. Quatrièmement, si le bon Dieu voulait que j'agisse autrement, il n'avait qu'à me faire autrement. Cinquièmement, je suis comme je suis, ceux qui n'en sont pas satisfaits n'ont qu'à s'en accommoder, y compris les prêtres et Dieu lui-même. La glissade est insensible d'une étape à l'autre. C'est pourquoi tous les bons auteurs conseillent de lutter contre les péchés de faiblesse afin d'en rester au premier stade, humiliant s'il en est, qui consiste à reconnaître que l'on reste esclave de ses humeurs, de ses désirs, et être persuadé qu'il vaudrait mieux qu'il n'en soit pas ainsi. C'est en ce sens que les filles de joie dont parle l'Évangile entreront les premières dans le royaume des cieux grâce à la conscience qu'elles ont de leur indignité, de la pauvreté spirituelle qu'implique leur misérable métier, alors que le pharisien se croit pur et à ce titre pense avoir des droits sur Dieu. La grandeur de l'homme réside dans sa liberté. C'est en vertu d'un acte volontaire qu'il choisit de suivre ce que son intelligence lui a montré comme bien. Mais il n'est pas libre de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Par exemple, je peux facturer 5 kilos de carottes à quelqu'un qui m'en a acheté 2 fois 2 kilos. Ce n'est pas pour autant que je puisse affirmer que 2 et 2 font 5. Au rebours des animaux qui sont parfaitement programmés, et à ce titre ne peuvent se tromper, je me rappelle avoir vu sur Internet le film d'une araignée qui tisse sa toile, c'est quelque chose de merveilleux. Mais elle ne se trompe jamais, elle tisse toujours la même toile. L'homme doit découvrir le bien, puis y adapter sa conduite. Tout son mérite est dans l'exercice de cet amour. Lorsque la violence de sa nature l'entraîne en dehors du droit chemin, il doit avoir l'honnêteté de reconnaître que ce n'est pas bien. Sinon, c'est la pire corruption de l'intelligence. Faute d'un programme adéquat, il tombe alors en dessous de la bête. Regardons le cas d'Hérode, père de Salomé. Il avait pris sa belle-sœur chez lui. Que voulez-vous ? La chair est faible. Saint Jean-Baptiste lui ayant reproché, il le mit en prison pour avoir la paix avec la mégère qu'il aurait bien mieux fait de laisser à son frère. Il ne pouvait faire autrement, bien qu'il appréciât beaucoup Saint Jean-Baptiste. Saint Marc dit qu'il l'écoutait volontiers. On connaît la suite. Et comment, en conclusion d'un pari stupide, engagé après une beuverie terminée par un spectacle érotique, il fut amené à faire tuer celui qu'il considérait comme un prophète. Reconnaissons que la matière est d'autant plus délicate que la frontière peut varier d'un individu à l'autre en toute bonne foi. Il n'est pour s'en convaincre que de rappeler l'attitude de saint Paul devant le problème de la viande consacrée aux idoles et du devoir de tolérance sur des questions somme toute accessoires comme le boire et le manger. On le trouve dans le chapitre 14 de l'Épître aux Romains, 8 de l'Épître aux Corinthiens et 5 de l'Épître aux Colossiens. Sa conclusion étant, prenez plutôt la résolution de ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Mais dans le fond, toutes ces choses ont peu d'importance, sauf si c'est pour notre frère une occasion de chute. Le don du Saint-Esprit semble être celui du conseil, lumière de l'Esprit-Saint par laquelle l'intelligence pratique voit et juge dans les cas particuliers ce qu'il faut faire et quels moyens il faut employer. Ce don du Saint-Esprit, un des plus négligés et oubliés de nos jours. Il correspond à la vertu cardinale de prudence, qui n'est pas, comme on pourrait le croire à première vue, un aspect du principe de précaution devenu sacro-saint. On dit bien qu'on met un département en alerte rouge pour éviter qu'ensuite on accuse le gouvernement de ne pas avoir prévenu qu'il pourrait pleuvoir. Ce n'est pas la prudence n'est pas une protection contre les procès. Non, la vertu de prudence consiste à choisir dans chaque cas la meilleure solution. Les litanies de Saint Joseph louent sa prudence, Saint Joseph très prudent. Il est parti en Égypte comme on le lui avait demandé, mais au retour, il décida de se retirer à Nazareth plutôt qu'à Jérusalem, car c'est Hérode le Grand qui régnait à Jérusalem. La prudence peut conduire à adopter une conduite risquée. Je dois aller en toute urgence à un endroit de l'autre côté de la montagne. Dois-je prendre le col plus court ou dois-je aller par la route de plaine? Tout dépend. S'il y a du verglas, il faudrait bien que je prenne la route de plaine, comme le dit la prudence. Mais s'il n'y a pas de verglas et que ma voiture est bonne, j'irai tout droit. La béatitude correspondante, c'est celle du miséricordieux, car il faut toujours regarder avec sympathie son prochain, être prêt à lui pardonner d'éventuels écarts tout en restant ferme dans la foi, et ferme pour soi-même. Le péché capital à vaincre est la luxure qui nous conduit à n'accorder de réelle importance qu'aux plaisirs immédiats. Le poison contre cette église de Thyatire est distillé par toutes les théories qui se disent évolutionnistes, dont Darwin semble le modèle. Il ne s'agit pas de nier toute évolution dans le monde, ni l'apparition successive d'espèces de plus en plus complexes, mais d'affirmer que le Christ et sa doctrine sont la véritable lumière qui éclaire tout homme venant de ce monde, comme le dit saint Jean. Pour les évolutionnistes, tout doit évoluer. Ce qui est vrai demain ou bon aujourd'hui ne l'était pas hier, ne le sera pas demain. La vérité se dissout ainsi dans un flou inconsistant, avec cette remarque parfois entendue « Nous ne sommes plus au Moyen-Âge ». Certes, nous nous déplaçons plus vite et nous disposons d'un outillage perfectionné. Mais nous mangeons et buvons de la même manière, et nos enfants ne naissent pas autrement. L'église de Thyatire nous apprend à rester fermes, non seulement dans la doctrine, mais aussi dans les mœurs. Pour ne prendre que deux exemples anodins, ce n'est pas parce que le jeûne eucharistique a été assoupli qu'il faut s'empiffrer avant d'aller à la messe. Même chose pour le jeûne et l'abstinence en carême. La récompense promise dépasse les espérances du pratiquant durant. Je lui donnerai l'empire sur les nations païennes, il les mènera à la baguette de fer comme au fracas de la poterie. Le respect de l'amour du Christ qui commence par garder ses commandements, comme donnera le droit de régner. Pour qui, non? Le respect de l'amour du Christ, pour qui? L'amour du Christ, oui, qui commence par garder ses commandements, l'amour du Christ, excusez-moi, donnera le droit de régner sur les nations païennes, c'est-à-dire de les réduire au silence. Ces dévoyés reconnaîtront le bien fondé des opinions qu'ils combattaient, le mérite et la gloire de ceux qu'ils méprisaient comme bigots et bien-pensants. Le saint de l'église de Thyatire semble être saint François de Sales, qui sut si bien concilier les obligations de la vie moderne et une piété authentique. De plus, cette merveille d'équilibre n'est jamais triste, ce qui ne signifie nullement qu'elle ne soit pas exigeante. Les prières les plus adaptées semblent être celles du milieu des principaux temps liturgiques, Gaudete pour le troisième dimanche de l'Avent, Laetare pour le quatrième dimanche du Carême et Jubilate pour le troisième dimanche de Pâques. La vie à l'ombre de la foi ne peut qu'apporter la joie en dépit des épreuves. Contre les péchés de faiblesse, la confession fréquente reste le meilleur remède. Bon, la prochaine fois, nous parlons de l'Église de Sardes.